Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs. Je vous souhaite un très agréable sabbat. Nous lisons dans l'Évangile que Jésus a guéri beaucoup de personnes malades ou handicapées. Et à deux reprises au moins, il a prononcé ces paroles réconfortantes. Il a dit « Ta foi t'a sauvé ». Nous le lisons dans le cas de deux hommes souffrant de maladies différentes et qui avaient demandé à Jésus de les guérir. Jésus a bien répondu à leur demande, et ils ont été guéris. Et il leur a dit ces mots merveilleux, « Ta foi t'a sauvé ». L'un d'entre eux s'appelait Bartimée. Et l'histoire de Bartimée dans la Bible est vraiment une histoire de foi. Bien sûr, il existe beaucoup d'autres exemples, beaucoup d'autres récits dans les évangiles qui nous montrent des exemples extraordinaires de foi. Par exemple, rappelez-vous l'histoire des 10 lépreux, guéris et qui nous enseignent justement ces leçons de foi. En particulier parce que l'un d'entre eux était un Samaritain. J'y reviendrai. Ce Samaritain est revenu rendre gloire à Dieu. Il est venu remercier Jésus pour sa guérison. Les autres ne sont pas revenus. Ils n'ont pas jugé nécessaire de dire merci. Et Jésus l'a fait remarquer. À ce Samaritain, Jésus a dit aussi les mêmes mots, « Ta foi t'a sauvé ». Ces deux récits ne sont pas des paraboles, ce ne sont pas des imageries romancées. Non, ce sont des faits réels, des histoires sur des personnes ayant vraiment existé. Deux hommes, deux particuliers qui ont été guéris par Jésus. Revoyons donc aujourd'hui ensemble ces deux exemples dans nos Bibles, car, voyez-vous, ils nous enseignent des leçons sur la foi, des leçons extrêmement profitables, extrêmement utiles pour nous, chrétiens, aujourd'hui. La guérison de Bartimée est mentionnée dans trois des évangiles, dans celui selon Matthieu, chapitre 20, dans Luc, chapitre 18, et dans Marc, chapitre 10, où précisément ce nom est mentionné. Dans Marc chapitre 10, son nom, Bartimée, nous est révélé. Le contexte nous dit que Jésus, ses disciples et une grande foule venaient de rentrer de Jéricho et qu'ils étaient en route pour Jérusalem. Au bord de la route, là se trouve un aveugle qui, en fait, mendie. C'était Bartimée. Alors, reportons-nous à ce récit dans l'Évangile selon Marc, Marc chapitre 10. Et commençons la lecture au verset 46, Marc chapitre 10, verset 46. Avant de nous reporter à Marc, j'aimerais citer le commentaire d'un dictionnaire, le dictionnaire biblique Holman, qui dit ceci sur ce paragraphe. Il dit « En raison de leur grave handicap, les aveugles avaient peu de possibilités de gagner leur vie. Et fréquemment, les aveugles devenaient des mendiants. Donc on voit que socialement, ils avaient de grandes difficultés. Et dans l'Antiquité, on pouvait naître aveugle, c'était possible, à cause d'un défaut de développement, à cause d'une infection avant la naissance. Cependant, la cécité pouvait aussi apparaître au cours de la vie, plus tard, et c'était la généralité des cas. La cause la plus courante, en effet, était l'infection. La médecine aujourd'hui reconnaît le trachome, comme étant une infection douloureuse de l'œil, qui est une cause courante de cécité aujourd'hui et qui était probablement répandue dans l'Antiquité, nous dit le dictionnaire biblique Holman. Il continue en disant, en réalité, presque aucun traitement efficace n'était disponible pour ceux qui souffraient de maladies des yeux et de cécité. Il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait pas de procédure chirurgicale efficace pour régler la plupart des problèmes médicaux. Il n'y avait pas non plus de lunettes pour améliorer la vision. On recherchait souvent une guérison miraculeuse. Fin de citation, selon le dictionnaire biblique Holman. Ainsi donc, lorsque Bartimée entend que Jésus est là, tout proche, et peut-être même à portée de voix, peut-être entend-il sa voix, alors il se met à l'appeler de toutes ses forces. Il l'appelle pour demander miséricorde. Commençons la lecture au verset 47. Marc, chapitre 10 et le verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient. Plusieurs le reprenaient donc pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Verset 49, Jésus s'arrêta et lui dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Verset 51, Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Et il répond ces mots, « Rabboni. » Rabboni, alors, le terme « Rabboni », c'est la forme emphatique du mot « rabbin » dans la langue araméenne, la langue du Christ. Autrement dit, « rabbin » en français veut dire « maître, professeur ou docteur ». « Rabboni », qui est la forme emphatique, c'est-à-dire « grand maître, grand professeur ou grand docteur ». Il dit, Bartimée, « Que veux-tu que... » Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Et Bartimée répond, « Rabboni, grand maître, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Voilà l'objet de son désir et de toute son énergie. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Alors, il recouvrit ensuite la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Imaginez un peu la joie de Bartimée. Il n'est plus aveugle. Bartimée n'est plus aveugle. Il s'est adressé à Jésus de toutes ses forces, avec un grand respect, avec courage, et même avec force et un grand don d'honneur. Avec force et honneur, il l'appelle « fils de David ». Et comme je le disais, les pharisiens n'aimaient pas beaucoup entendre cela. En particulier eux, les pharisiens, n'utilisaient jamais cette expression « fils de David ». Ils ne l'approuvaient pas. Comme nous le voyons dans un autre récit, dans Matthieu, chapitre 12, verset 22, je ne m'y reporte pas, je le cite simplement. « Alors, on lui amena un démoniaque, donc Matthieu, chapitre 12, verset 22 à 24. On amena à Jésus un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzéboul, le prince des démons. » Donc, il n'aimait pas cette appellation de « fils de David ». Et en nous reportant aux notes de Barnes sur la Bible, nous lisons cette explication, où il est dit « N'est-ce pas le fils de David ?» dit le peuple alentour. C'est-à-dire, n'est-ce pas le descendant promis de David, le Messie ? Il connaissait la prophétie d'Ésaïe, chapitre 35, verset 5, qui dit « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, alors s'ouvriront les oreilles des sourds. » Et donc, ils en déduisirent que celui-ci devait être le Messie promis, car seul, il était capable de faire ses guérisons. Et c'est le peuple qui en déduisait cette conclusion, mais certainement pas les pharisiens, piégés par leur orgueil et leur attitude hautaine. Fin de citation des notes de Barnes sur la Bible. Donc non seulement Bartimée croyait de toutes ses forces, était persuadé que Jésus, ici présent, était bien le fils de David, descendant de David, de descendance royale, mais il croyait aussi qu'il était le Rabboni, c'est-à-dire le grand maître, le Messie promis. Et au verset 51, nous lisons Marc chapitre 10, verset 51, Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je fasse ?»« Rabboni, lui répondit l'aveugle, grand maître, que je recouvre la vue. » Et aussitôt, Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Jésus, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, a répondu à l'appel de Bartimée. Il a répondu, il a miraculeusement exaucé la demande de Bartimée, sa supplication. Remarquez ces expressions qui viennent de l'aveugle. Bartimée dit ceci, il l'appelle grand maître, Rabboni. Jamais les pharisiens n'auraient appelé Jésus de cette façon. Jamais. De même, Bartimée appelle Jésus de toutes ses forces. Il crie à plein gosier, « Fils de David », c'est-à-dire « fils du roi d'Israël ». Et il le crie de toutes ses forces. Il n'a pas peur des conséquences. À tous les coups, les pharisiens viennent de l'entendre, là aussi, dans ce cas. Donc jamais les pharisiens, nous le savons, n'auraient donné ce titre vénérable, ce titre véritable à Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus était bien fils de David, nous le savons. Puisque, premièrement, par sa mère Marie, dont nous avons la descendance et la généalogie royale dans l'Évangile selon Luc, chapitre 3, la généalogie de Marie, mère de Jésus, remonte à Nathan, fils de David. Et même par son beau-père, si besoin était, son beau-père Joseph, le charpentier, lui aussi était de descendance royale. Nous lisons sa généalogie, vérifions-la, dans Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, elle remonte à une autre branche, celle de Salomon, fils de David également. Donc les deux époux, en fait, font remonter leur généalogie à David. C'est une généalogie royale. Notons le commentaire de la Bible de Cambridge pour les écoles et les collèges, dont voici la traduction en français. Elle dit ceci, le mot original est « Rabboni, mon maître ». L'aveugle lui donne le titre le plus vénéré qui soit, le titre le plus vénérable qu'il ait connu. Le titre n'apparaît qu'ici, et il apparaît aussi dans Jean chapitre 20, verset 16, où il est utilisé par, dans ce cas-là, par Marie-Madeleine, qui s'adresse à son Seigneur ressuscité, Rabboni. La Bible entièrement exposée de John Gill dit ceci, là aussi c'est une traduction que je donne en français, l'aveugle lui dit « Seigneur, Rabboni » ou comme le dit la version syriaque, « Rabbi ». Toi, grand maître en Israël, Seigneur de toute la terre, ma demande que tu peux accomplir, c'est que je recouvre la vue. C'était son désir, c'était ce qu'il voulait voir, et il savait que Jésus pouvait le guérir. Alors, pour nous qui ne souffrons pas de cécité, c'est difficile, bien entendu, à imaginer. Car, à de rares exceptions près, nous n'avons jamais été aveugles. Vous savez, ma mère a aujourd'hui 97 ans, et il y a plus de 20 ans, elle a perdu l'usage de sa vue en raison d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge, une DMLA. Elle a subi avec courage des traitements difficiles, pénibles, qui n'ont fait que ralentir la perte de la vue, la perte totale. Elle peut encore voir aujourd'hui, elle peut encore regarder la télévision, mais que ne donnerait-elle pas ? Que ne donnerait-elle pas pour retrouver le plein usage de sa vue ? Sans compter, bien entendu, tout le reste, le plein usage de sa santé et même sa jeunesse, ce que nous comprenons nous-mêmes, bien entendu. Voilà plus de 20 ans qu'elle ne peut plus lire. Alors que ne donnerait-elle pas pour retrouver sa jeunesse, sa vigueur, sa santé ? Nous savons grâce aux prophéties, grâce à la foi dans les promesses que Dieu nous donne, que ce temps viendra un jour. Nous venons juste de le célébrer avec le dernier grand jour cette année, lorsque toute l'humanité, finalement, sera désormais ressuscitée. Mais revenons pour le moment à Bartimée. Il n'était plus aveugle. Il n'était plus aveugle, il voyait comme tous les autres. Et notez bien ce qu'il a fait après sa guérison, après que Jésus lui ait dit « va », autrement dit « continue sur ton chemin ». Bartimée a suivi Jésus sur la route. Il a décidé que maintenant son chemin, c'était le chemin du Christ. C'était le chemin de Jésus. Et il l'a suivi sur la route. C'est tout ce qui nous est dit sur Bartimée dans la Bible. Mais il reste cependant une leçon importante. Une leçon que nous pouvons tirer de sa vie, c'est celle-ci. Nous aussi, nous devons avoir cette foi. Nous devons avoir ce désir de suivre Jésus-Christ sur le chemin. En effet, cette même phrase « Va, ta foi t'a sauvé », Jésus va la répéter. Elle était destinée à Bartimée, mais elle a été aussi destinée en une autre occasion à un lépreux, quelqu'un qui souffrait d'une déficience différente, quelqu'un qui lui aussi avait grand besoin d'être guéri. Et cet homme faisait partie d'un groupe de 10 lépreux, 10 autres lépreux. Ce qui nous fait nous concentrer sur cet homme, c'est qu'il fut le seul parmi ce groupe qui revint vers Jésus. Le seul qui lui rendit grâce, qui lui dit merci, tout simplement. Merci pour ce que tu as fait. Et là aussi, c'est une leçon pour nous tous, de toute évidence. Pour vous et pour moi, car lorsque Dieu intervient dans nos vies, et combien de fois n'est-il pas intervenu dans nos vies pour nous guérir, nous ne devrions jamais oublier sa miséricorde. Nous ne devrions jamais oublier que c'est lui qui nous a guéris. Et nous devrions exprimer cette gratitude et cette reconnaissance. C'est la moindre des choses. Soyons sûrs que nous remercions Dieu à chaque fois qu'il nous guérit. Comprenons bien que pour les Hébreux, la lèpre était une terrible maladie, une maladie redoutable. Ses victimes devenaient, selon le texte sacré, impures. Qu'est-ce que cela veut dire? Impures, cela veut dire impropres sur le plan rituel. Ils ne pouvaient plus suivre les rituels bibliques, les instructions de Dieu. Et quiconque entrait en contact avec eux, avec un lépreux, était lui aussi considéré comme impur, subissait la même conséquence. Par conséquent, les lépreux étaient naturellement isolés du reste de la société. Ils étaient même regroupés ensemble afin d'être mieux identifiables. C'est bien compréhensible. Et puis aussi, il est bien naturel qu'ils puissent ensemble se soutenir et avoir les mêmes ressources et les mêmes soutiens. Il était plus facile d'être ensemble que d'être isolé et en tant que lépreux. Ainsi donc, étant isolé de la communauté, les membres de cette communauté, précisément, pouvaient donc, loin des lépreux, continuer à célébrer leur adoration religieuse selon les statuts divins. Et nous prenons le récit dans Luc chapitre 17. Dans Luc chapitre 17, reprenons le cours de cette histoire des 10 lépreux, ce récit. Luc chapitre 17, et allons au verset 12. Luc 17, verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Et se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, maître, aie pitié de nous ». Et en effet, c'est ce que les gens devaient faire en Israël, selon la loi concernant la lèpre, notée dans le livre du Lévitique, chapitre 13, verset 2. Ils devaient effectivement suivre des indications. Alors, Jésus va leur donner des instructions, hein, précisément à ce sujet. Et verset 14, il dit ceci. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Avant même d'avoir vu les sacrificateurs, ils furent guéris. Alors, pourquoi Jésus leur a-t-il dit d'aller voir les sacrificateurs? Eh bien, c'est que c'était la loi. C'était la loi en Israël et nous voyons que Jésus observe la loi. Et il dit ceci. Alors, reportons-nous précisément à cette loi dans le livre du Lévitique, le 3e livre de la Bible, Lévitique chapitre 13, verset 2. Lévitique chapitre 13, verset 2, où je vais lire l'intégralité de la loi sur la lèpre ou sur une maladie similaire. Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche, le mot lèpre n'est pas mentionné, mais ce sont des choses qui sont similaires, qui ressemblera à une plaie de lèpre, voilà le mot cité, sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Et une fois la lèpre guérie, la personne devait être amenée au prêtre, au sacrificateur, pardon, et c'est la raison pour laquelle donc Jésus-Christ leur demande d'aller se montrer, les lépreux devaient aller se montrer au sacrificateur, sachant qu'ils seraient guéris en chemin, et c'est ce qui est arrivé. Chapitre 14 du Lévitique, voyons la procédure. Lévitique chapitre 14, versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici quelle sera la loi sur le lépreux. » Donc c'est la loi qui vient de Dieu. « Pour le jour de sa purification, on l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. » Alors, nous voyons maintenant que les lépreux se rendent, revenons au récit de Luc, Luc chapitre 17, verset 14, les lépreux se rendent chez les sacrificateurs, et c'est là qu'un miracle se produit en chemin. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Et c'est à ce moment-là que l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, verset 15. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et il lui rendit grâce, c'était un Samaritain. Luc chapitre 17, verset 16. Alors nous pouvons retirer deux leçons importantes de ce passage. Le lépreux est revenu, et il est revenu pour dire merci à Jésus, pour rendre grâce. De même, lorsque Dieu intervient dans nos vies, nous ne devrions pas non plus, je le disais, oublier sa miséricorde, sa grande miséricorde et sa guérison. Nous devons nous souvenir de son intervention, et nous devons faire preuve de gratitude, de reconnaissance, et c'est une leçon importante pour nous. C'est la première. La seconde leçon à retenir, c'est que, voyez-vous, ce lépreux, le seul qui soit revenu vers Jésus pour lui dire merci, ce lépreux était un Samaritain. Or, nous le savons, la plupart des Juifs méprisaient les Samaritains. Et les Samaritains, déjà, n'étaient pas enclins à suivre la loi de Moïse. Ils n'étaient pas considérés comme juifs, ils étaient considérés comme des étrangers, donc ils n'étaient pas tenus d'observer la loi de Moïse, et notamment, si dans le cas des lépreux guéris, de se montrer auprès des sacrificateurs, qui ne les auraient pas accueillis correctement. Mais que dit le dictionnaire biblique Holman à ce sujet. Lisons ce commentaire. C'est qu'à l'époque du Christ, les relations entre les Juifs et les Samaritains étaient très tendues. L'animosité était très grande et les Juifs contournaient même la Samarie en passant de l'autre côté du Jourdain lorsqu'ils voyageaient entre la Galilée et la Judée. Donc ils franchissaient le Jourdain à l'est pour contourner toute la Samarie et ils parcouraient une distance supplémentaire à travers un désert, la terre aride de Pérée, sur la rive orientale du Jourdain, pour éviter de passer par Samarie. C'était dans les mœurs sociales de l'époque. C'était les habitudes des gens. Les Juifs considéraient non seulement les Samaritains comme des étrangers, mais ils ne voilaient à peine qu'à peine leur animosité, pour eux, leur hostilité. Et cela ne faisait pas plaisir à Jésus. Et Jésus, sans embâge, n'a pas hésité à réprimander ses disciples à cause de leur hostilité envers les Samaritains. Nous le lisons notamment dans Luc chapitre 9, verset 55. Luc chapitre 9, versets 55 et 56, je ne m'y reporterai pas. Sachant que Jésus lui-même prêchait aux Samaritains. Il venait jusqu'aux Samaritains à leur contact et il parlait avec eux. Donc, notamment, nous le lisons dans Jean chapitre 4, verset 40. Jean chapitre 4, verset 40. Alors, en raison même de cette hostilité qui existait entre Juifs et Samaritains, on pourrait être surpris de constater que le Samaritain revient auprès de Jésus. Après tout, il aurait pu trouver comme excuse le fait que, bon, ben, il y a cette hostilité, Il a bien voulu me guérir, mais on sait bien ce que les gens pensent autour de lui. Il a eu cette grâce envers moi, mais il est entouré de personnes qui ne m'aiment pas beaucoup, peut-être. Non, Jésus a fait une remarque à ce sujet. Il a dit ceci. Nous le lisons au verset 17 dans l'Évangile selon Luc, Luc 17. Et au verset 17, c'est Jésus qui commente. Il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Demande-t-il aux Samaritains. Et il regarde les autres disciples et il leur dit, ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et pour donner gloire à Dieu? Et en disant cela, Christ n'est pas, ne frappe pas le Samaritain d'ostracisme. Il ne l'insulte pas. Il leur dit, vous voyez, vous le considérez comme un étranger, et c'est lui qui revient. Et les autres ne reviennent pas. Les 9 autres, où sont-ils? Ils sont juifs. Et cet étranger-là revient. Et c'est une autre leçon importante que nous pouvons retirer de cette histoire. Parce que voyez-vous, en fait, peu importe qui nous sommes, peu importe d'où nous venons, Dieu est content de nous quand nous sommes reconnaissants, quand nous avons cette foi qui vient de Dieu, en fait, quand nous exprimons notre reconnaissance, notre gratitude, parce que Dieu nous a guéris, nous reconnaissons ces choses, nous revenons, nous lui disons merci. Dieu fait très attention à ces choses et il en prend note. Il faut donc que Dieu en prenne note aussi dans nos vies. Soyons sûrs de remercier Dieu. 9 des lépreux ne sont pas revenus glorifier Dieu, ne sont pas revenus rendre grâce à Jésus. Mais le 10e, un étranger, un non-juif, un samaritain qui plus est revenu vers Jésus et il a pris le temps de le faire. Il a dit merci. Il a exprimé sa gratitude, sa reconnaissance. Ce n'est pas plus difficile que cela, mais il l'a fait. Alors, nous retrouvons ces mêmes paroles de Christ, « Va, ta foi t'a sauvé ». Nous retrouvons ces mêmes paroles adressées à Bartimée. Rappelez-vous, Bartimée a entendu aussi ces paroles. Et là, dans ce cas, dans le cas de ce lépreux, il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Ce Samaritain avait donc, lui aussi, la foi dont nous avons tous besoin dans nos vies. Alors ces deux miracles à eux seuls, Bartimée et le lépreux samaritain, sont des miracles extraordinaires. Imaginez cela aujourd'hui. Imaginez de tels actes administrés publiquement de nos jours devant la télévision. Il y a fort à prévoir que, évidemment, l'incrédulité serait de mise. De toute façon, on aurait du mal à croire. Bon, alors, quelles sont les preuves? Attendez, il doit y avoir une explication, là, c'est pas normal. Non, 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 non. Jusqu'à ce que, finalement, un jour, la vérité se fasse voir, donc au grand jour, et que tous puissent reconnaître qu'effectivement, c'est prouvé, tel expert a pu déterminer que, oui, effectivement, c'est bien cela. Il n'a pas fait l'objet d'une somme d'argent qui lui aurait été versée pour dire cela. Non, non, c'est bien scientifiquement prouvé. La personne est guérie. Ces deux miracles, nous le savons bien, n'étaient pas les seuls de Jésus. Et bien entendu, tout au long de son ministère de 3 ans et demi sur terre, Jésus a rencontré malgré tout beaucoup de personnes aveugles. Et il les a guéries. Mais que nous apprennent, et c'est peut-être là la partie la plus importante du sermon, que nous apprennent ces guérisons sur le plan spirituel? Nous savons pourquoi et comment l'humanité est devenue spirituellement aveugle, coupée de la connaissance de Dieu. Nous savons que Dieu doit intervenir pour ouvrir les yeux de l'humanité afin qu'elle puisse à nouveau discerner les vérités spirituelles, vitales et fondamentales pour la vie, dont nous avons tous besoin dans nos vies, pour changer et pour en faire en sorte que la vie redevienne normale, redevienne agréable. Nous voyons bien que ce monde dérive complètement, qu'il va à sa perte et que rien ne semble arrêter sa machine folle. Mais il y a une solution, et cette solution est spirituelle. Déjà, être physiquement aveugle, c'est terrible. Cela peut être extrêmement décourageant, ne serait-ce que sur le plan de la sécurité, par exemple. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui peut être extrêmement dangereux pour les personnes qui ne peuvent pas voir et qui doivent bien souvent compter sur leurs autres sens pour pouvoir s'orienter et compenser ce manque de vue. Mais vous voyez, être spirituellement aveugle, c'est tout aussi dangereux. Nombreux sont ceux qui tombent dans les pièges spirituels qui en subissent des conséquences, parfois jusqu'à la perte même de la vie, à cause de la cécité spirituelle. Heureusement pour nous, Dieu a un plan pour défaire cette cécité spirituelle que notre ennemi commun, Satan, a placé volontairement sur l'humanité. Il est vrai que Dieu, qui est tout-puissant, a permis à Satan de faire ces choses pendant un certain temps. Alors pourquoi ? Parce que Dieu, précisément, je le disais, Dieu a un plan. Il a un plan magistralement articulé. Le jour viendra, en effet, il est prophétisé dans la Bible. Lorsque Dieu ouvrira les yeux des gens à la compréhension spirituelle de ce plan, comme il est dit dans le livre des Actes au chapitre 26 au verset 18, afin de les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Les récits de l'Évangile rapportent 5 exemples spécifiques où Jésus a guéri des personnes aveugles. Et chacun de ces exemples nous donne une leçon sur l'ouverture de nos yeux spirituels, cette fois-ci, et non plus seulement physiques. Dans ce serment, nous examinerons 3 de ces 5 récits et nous découvrirons ce qu'ils révèlent sur la guérison de la cécité spirituelle. Nous venons déjà de voir 2 exemples. Mais il existe aussi dans Matthieu chapitre 9 un autre exemple. Nous lisons l'histoire de 2 hommes aveugles qui ont imploré Jésus pour qu'il leur ouvre les yeux. Reportons-nous à Matthieu, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9. Et allons au verset 28. Matthieu, chapitre 9, le verset 28. Jésus leur dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Pardon. Au chapitre 10, voilà, Matthieu chapitre 28, alors Matthieu chapitre 9, pardon, verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre volonté. » Pardon. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne le sache. Qui ne chercherait pas la guérison physique de Dieu lorsque Dieu se fait connaître? Qui ne rechercherait pas la guérison physique que Dieu offre? Or, la plus grande guérison dont un homme ou une femme puisse bénéficier, c'est en fait non pas une guérison physique, mais c'est une guérison spirituelle. C'est l'ouverture des yeux pour voir la vérité, pour voir le plan véritable de Dieu, créateur des cieux et de la terre, et sauveur de l'humanité. C'est cela, l'un des plus grands miracles du Christ, ouvrir les yeux de quelqu'un pour qu'il puisse voir spirituellement. Mais il faut la puissance de Dieu pour accomplir ce miracle, et pour transformer la vie d'une personne. Sans la puissance de Dieu, ce miracle ne serait pas possible. Ce miracle venant de Dieu lui-même, de la puissance de Dieu, ne peut se produire que si nous avons la foi en nous, la foi qui vient de Dieu. Nous devons croire que Dieu peut changer nos vies, peut nous accorder cette foi, et peut faire en sorte que nous soyons guéris spirituellement. Mais nous devons le rechercher, car il est celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il nous donne cette foi. Il nous est dit notamment dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il faut donc croire en Dieu et rechercher Dieu, rechercher ses grâces, rechercher ses dons, rechercher la foi qu'il peut mettre en nous, qu'il peut nous donner, pour que nous aussi, nous ayons cette foi merveilleuse. Oui, la véritable foi vient de Dieu. C'est lui qui peut nous la donner. Il nous faut donc la demander. Et c'est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Puis, lorsque cette foi qui vient de Dieu est en nous, alors elle nous pousse à produire des actes de foi, des actions qui seront en fait des preuves que cette foi existe bien en nous, tel que nous le lisons dans Jacques chapitre 2, verset 18. Reportons-nous à l'épître de Jacques, chapitre 2 et le verset 18. Jacques 2, 18. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Comme quoi, croire ne suffit pas. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres, sans les actes, sans les actions, c'est inutile. Il faut prouver par nos actes, par nos actions, par nos œuvres, que nous croyons. Les démons ne le font pas. Nous devons le faire. Car sinon, notre foi serait inutile. Et il prend l'exemple d'Abraham. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Il offrit son fils Isaac sur l'autel en obéissant aux instructions de Dieu. Imaginez le montant de foi, la quantité de foi qu'il fallait pour faire cela. Et bien entendu, Dieu n'a pas permis qu'il ait l'acte final, qu'il n'avait pas en fait l'intention de voir se réaliser. Abraham n'a pas tué son fils, mais il a montré une foi, littéralement, on pourrait dire aveugle, mais une foi déterminée. Il a laissé Dieu agir, il était prêt à obéir à Dieu, et Dieu l'a arrêté au moment qu'il voulait, et Dieu a dit à ce moment-là, « Maintenant je sais que tu as foi en moi, maintenant, en substance. » Autrement dit, aussi insurmontable que soit la situation à laquelle nous faisons face, et notamment aussi insurmontable soit-elle à des yeux humains, préoccupés comme nous pouvons l'être par les réalités, par le sens des réalités, quand elles nous font face, eh bien, aussi insurmontable que soit la situation, Dieu nous promet d'intervenir dans chacune de nos situation difficile, il nous donne cette assurance, il nous donne cette certitude qu'il le fera effectivement, qu'il interviendra. Alors, soyons sûrs de faire appel à sa puissance et à son intervention miséricordieuse. Faisons notre part. Ce n'est pas plus difficile que ça, il suffit de demander à Dieu ce qui est nécessaire, tout simplement, de faire cette déclaration respectueuse devant lui, dans nos prières, et de demander cette prière qui répond à nos besoins, avec foi. Cette foi aussi devrait nous conduire à changer. Elle devrait en fait nous permettre de croître, de grandir, de pousser comme une jolie plante qui produit de nouvelles pousses, qui prospère. Et finalement, cette foi devrait produire en nous cette motivation, ce désir véritable, irrésistible, de vouloir consacrer notre vie à Dieu. Dieu est notre Créateur. Qu'y a-t-il de plus magnifique que de vouloir donner sa vie à notre Dieu que nous aimons? Consacrer notre vie à Dieu, vouloir lui donner notre vie, oui, pour lui dire en quelque sorte, guide-moi Seigneur, ma vie désormais t'appartient. C'est magnifique. Où que tu veuilles que j'aille, j'irai. Pouvons-nous dire cela à Dieu? Avons-nous cette motivation, ce désir sincère? Sentons-nous à quel point c'est quelque chose que nous désirons vraiment. Où que tu veux que j'aille, j'irai. Une question intéressante que nous pouvons nous poser. Montre-moi la route, Seigneur. Vous savez, s'il y a par exemple une personne avec laquelle Dieu souhaite que nous puissions fonder un foyer, ne serait-il pas opportun de dire à Dieu, guide-moi, Seigneur. Fais-moi connaître cette personne. Vous savez, avoir cette confiance en Dieu, que Dieu va précisément choisir la meilleure personne, précisément, exactement la personne qui saura s'attacher, qui saura s'associer à nous, la main dans la main, avec la reconnaissance réciproque de ce besoin l'un de l'autre, qui pourra s'épanouir magnifiquement dans le cadre du mariage, une union selon Dieu. Je rappelle simplement que le mariage, c'est l'œuvre de la création de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a créé pour toute l'humanité. C'est quelque chose de magnifique. Et donc c'est quelque chose pour lequel nous avons besoin, notamment et surtout et premièrement, nous avons besoin de son conseil en la matière. Mais l'essentiel dans cette démarche, comme dans beaucoup d'autres décisions importantes de la vie, c'est la foi. C'est la croissance dans la foi. Croissons-nous dans la foi. Poussons-nous comme une jolie plante. Grandissons-nous dans la foi. L'apôtre Pierre nous met en garde contre l'absence de croissance dans la foi, précisément. Un tel chrétien qui ne croit pas dans la foi, qui ne grandit pas dans la foi, court un grand risque de devenir aveugle spirituellement. Pierre, apôtre, le dit dans sa deuxième épître, 2 Pierre chapitre 1 et le verset 9. 2 Pierre chapitre 1 et le verset 9. Il écrit, mais celui en qui ces choses, c'est-à-dire il parle de toutes les vertus qu'il vient d'énumérer juste avant, avec la toute première de ces vertus qui est la foi. Et il dit, il écrit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et un chrétien est guidé par la foi. Un chrétien qui est guidé par la foi vivra pour la justice. Il aura accès à la guérison spirituelle de l'esprit pour désormais penser, agir comme Jésus-Christ aurait pensé, aurait agi. Pense et agis maintenant. Vous savez, lorsque Christ a corrigé les pharisiens et leur a dit que ces guérisons ne pouvaient pas être faites par des démons, par la puissance des démons, et ne pouvaient être faites que par une puissance plus grande que celle de l'archange Lucifer, que celle de Satan, mais qu'elles ne pouvaient être faites que par l'Esprit de Dieu lui-même, que par la puissance de Dieu. Jésus, alors, à ce moment-là, a dit « Le royaume de Dieu est venu vers vous. » Notamment, nous le lisons dans Matthieu chapitre 12, verset 29. Il a dit « Le royaume de Dieu est venu vers vous. » Alors, pourquoi a-t-il dit cela aux pharisiens ? Le royaume était venu vers eux, les pharisiens, parce que Jésus en était lui-même le souverain. Le roi était, en fait, juste là, devant eux. Et il était question précisément des puissances. Mais les pharisiens étaient aveugles spirituellement. Ils ne pouvaient pas reconnaître Christ en tant que roi, en tant que fils de David, et en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Et tout comme les pharisiens à l'époque du Messie étaient spirituellement aveugles, bien des gens, aujourd'hui, ne peuvent pas reconnaître l'Église que Jésus-Christ a fondée. Ils n'arrivent pas à l'identifier. Ils sont là à tâtons, ils vont ici et là, désirant probablement se convertir au christianisme, mais ils ne le peuvent pas. Aujourd'hui, nous avons des milliers et des milliers de chapelles, des milliers d'églises, de communautés soi-disant chrétiennes qui peut-être voudraient faire la volonté de Christ, mais ne prennent pas la peine ou n'arrivent pas à comprendre quelles sont les véritables observances. Quelles sont les véritables instructions que Christ nous a données dans la Bible dans sa parole et ils y substituent des commandements d'hommes, exactement comme Christ l'avait signalé dans sa parole, dans l'Évangile. La fête de Noël, la fête de Toussaint, toutes ces fêtes, et j'en passe, et des meilleures, des vertes et des pas mûres, toutes ces fêtes ne viennent pas de Dieu. Elles ne sont pas dans la Bible. Parole de vérité. Malheureusement, il faut bien le dire, ces communautés, soi-disant chrétiennes, sont spirituellement aveugles. Nous le savons, et nous le savons grâce à la Bible. Nous ne devons jamais rien ajouter au récit biblique, et nous ne devons rien lui en retrancher. Si nous sommes de véritables chrétiens, nous n'observons pas la fête de Noël. Nous n'observons pas la fête des morts et la fête de l'Assomption. Nous observons les fêtes de Dieu, de la Pâque jusqu'au dernier grand jour, telles qu'elles sont mentionnées dans le livre du Lévitique. Nous restons fidèles à ce que Dieu nous a demandé de faire. Point à la ligne. Il faut une vision spirituelle pour reconnaître la véritable Église de Dieu aujourd'hui. Il faut un miracle de Dieu pour que nos yeux humains s'ouvrent à la vérité et voient la vérité, enfin. Vous savez, l'apôtre Paul, avant de s'appeler l'apôtre Paul, s'appelait Saul. Et Saul, c'était celui qui allait devenir cet apôtre, ce serviteur de Christ. Il pensait à l'époque avoir raison, il persécutait l'Église, avant de rencontrer Christ sur le chemin de Damas. Et il a fallu que Jésus lui ouvre les yeux, à sa façon. Dans le cas de Paul, il fallait que les choses soient ainsi, pour qu'il comprenne la vérité sur lui-même. Et le voilà par terre, frappé par Jésus, frappé par cette lumière puissante. « Qui es-tu, Seigneur ? » dit-il. Et Jésus répond, « Je suis Jésus que tu persécutes. » En fait, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous faibles, nous sommes tous, en tant que tels, nous avons tous de la peine, des difficultés, notamment en regardant le monde se frayer un chemin vers son destin. Oui, l'avenir peut sembler très sombre. Il peut sembler bien sombre déjà. La peur, les inquiétudes, les angoisses se font jour et elles peuvent même s'infiltrer dans nos vies, elles peuvent même nous accabler de pensées négatives, malgré la foi qui nous a déjà été transmise une fois pour toutes. Alors, ne lâchons pas prise. Ne perdons pas pied, continuons avec confiance. Dieu nous aidera. Pour maintenir notre vision spirituelle, nous, chrétiens, nous devons continuer de travailler avec persévérance sur notre relation avec Dieu, jour après jour, semaine après semaine, sans jamais nous relâcher. Comment en le faire? Eh bien, en appelant Dieu à l'aide par la prière, en appelant Dieu à nous parler, à nous conseiller, et en étudiant sa parole, la Bible. Vous savez, être aveugle physiquement, c'est loin d'être une sinécure, c'est difficile. Et nous-mêmes qui sommes clairvoyants physiquement, nous pouvons voir, nous n'avons jamais été aveugles. Eh bien, lorsque tout d'un coup, il y a une panne de courant. Errer dans l'obscurité, c'est tout d'un coup un changement de circonstance, un changement environnemental véritablement déroutant. Errer dans l'obscurité à tâtons, évidemment, cela nous est tous arrivé. Une panne de courant soudaine, un simple corridor à franchir jusqu'au prochain bouton, prochain interrupteur, c'est l'obscurité totale. Et c'est comme si, soudainement, effectivement, nous devenions aveugles. Et dans ces moments, on peut ressentir cette légère incertitude. On peut ressentir un soupçon de risque, une certaine appréhension du danger, la crainte de trébucher, la crainte de nous cogner, peut-être de tomber. Cela nous oblige à nous fier pendant quelques secondes au toucher, au juger, à notre mémoire visuelle pour essayer de nous rappeler où sont les choses, à ralentir nos mouvements. Nous avançons la main, nous n'arrivons plus à trouver le bouton de la lumière. Nous trouvons le mur, notre main cherche à gauche. C'est là qu'il doit être, tiens. Comment ça se fait? Il n'y a rien. Rien au-dessus, rien en dessous. Et ah, tiens, il était à droite. Enfin, le voilà. Oui, il était beaucoup plus à droite que ce que je pensais. Donc, être spirituellement aveugle, c'est un peu le même processus. C'est un peu la même démarche. C'est tout aussi dangereux. La cécité spirituelle signifie que nous errons sans but réel, nous nous laissons aller plus ou moins, nous sommes plus ou moins ballottés par les circonstances de la vie. Et ces circonstances dans la vie, sur le plan spirituel, pourraient avoir un impact sur nous, pourraient finir éventuellement même par nous façonner quelque peu. Nous sommes tous nés spirituellement aveugles, en fait. Nous n'avions pas, dès la naissance, la vue spirituelle. Nos yeux physiques de petits enfants se sont ouverts au monde physique, au monde merveilleux que Dieu a créé. Mais nous avions encore besoin d'une autre vue. Nous avions besoin que Dieu nous accorde miraculeusement et dans un but précis la vue spirituelle. Selon son moment, selon sa décision, Dieu nous accorderait cette vue spirituelle qu'il prévoit pour chacun d'entre nous, chacun de ses enfants, chaque être humain ayant vécu au cours de toute l'histoire. Il y aura un moment pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose de formidable, c'est un don extraordinaire, c'est une lumière qui est impartageable. Je dis cela parce que nous ne pouvons pas partager cette vue spirituelle avec ceux que nous voudrions être capables de la voir. Avec notre famille, par exemple, notre famille physique restée dans l'obscurité. Nous voudrions qu'ils comprennent eux aussi et que nous puissions partager avec eux ces choses merveilleuses. Et bien souvent, lorsque nous sommes seuls à avoir été appelés, cette chose n'arrive pas. Pourquoi ? Je devrais dire pas encore. Eh bien, c'est que, voyez-vous, Dieu est le seul qui puisse opérer ce partage. Alors, ce n'est pas un partage qui n'est pas possible, c'est simplement Dieu qui le rend possible, Dieu seul. C'est lui seul qui décide quand et comment il effectuera, en effet, ce partage de la vision spirituelle avec ceux que nous aimons et que nous voudrions voir capables de voir ces choses. Nous aimerions les voir inclus d'ores et déjà, aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui connaît le meilleur moment de cet appel pour eux, pour chacun de ses enfants. Ce monde aujourd'hui est enveloppé d'obscurité spirituelle. Mais Christ, notre Sauveur, Christ Jésus, est la lumière qui luit dans ce monde de ténèbres. Déjà, nous avons fait la preuve que Dieu nous a ouvert les yeux pour être en mesure de voir sa vérité. Et quel privilège inestimable! Au milieu de cette société corrompue, de cette société païenne, qui va bientôt, dans quelques semaines, s'adonner à la fête de Noël, une fête ouvertement païenne, ouvertement dirigée contre Dieu, malgré ses apparences, à plus forte raison, nous faut-il agir avec foi, avec détermination, avec courage, pour continuer à grandir, à pousser, à croître dans la connaissance du Christ et dans notre relation avec notre Père céleste. Dieu, notre Père, désire ardemment que ses enfants, le peuple de Dieu, le placent en premier et recherchent constamment sa direction et son conseil pour tous nos besoins vitaux, mais aussi pour la prédication de l'Évangile et pour le rétablissement du royaume de Dieu, son royaume, le royaume que son Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Sauveur, rétablira bientôt, qu'il remettra ensuite à son Père, le Père des gloires, le Père suprême, Dieu Tout-Puissant, notre Père céleste. Je vous souhaite une très agréable fin de sabbat et je vous dis à bientôt.